Professeur Moïla Tiembe, bonjour.
Bonjour.
Professeur, un compromis politique a été enfin trouvé entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et le rassemblement. Quelle est votre réaction?
On peut se féliciter que les signataires de l'accord dit de l'Union africaine et ceux de la CENCO se soient rencontrés. Bien sûr, il faut trouver ces compromis comme un compromis positif. Parce que chacune des parties a fait des concessions. La majorité qui ne voulait pas en entendre parler sous la pression du chef de l'État a dû comprendre que, premièrement, la paix, on ne peut pas faire la paix avec les amis. La stratégie nous apprend qu'on fait la paix avec les ennemis, c'est-à-dire les opposants. Or, dans la mesure où cet accord, déjà dans l'ordonnance que le chef de l'État avait signé, on voulait que le dialogue soit inclusif, et comme il manquait les opposants au pouvoir, à commencer par l'UDPS et ceux qui l'ont rallié, le G7, il était tout à fait normal que les choses en soient ainsi, même si la séquence dirigée par M. Kodjo n'a pas abouti à ce résultat.
Les délégués de la majorité présidentielle ont signé cet accord sous réserve. Comment commentez-vous cela?
Oui, la réserve en droit concerne des accords internationaux dans lesquels les États ont le droit, en signant un traité, de faire une réserve. Encore faut-il, un, que le traité ou l'accord prévoit la réserve, deux, que la réserve elle-même ne remette pas en cause ni l'objet ni le but du traité. Alors ici, nous ne sommes pas face à un traité international. Je comprends bien que pour des raisons de convenance, certains membres de la majorité, pas toute la majorité, parce qu'à la tête de la majorité, il y a l'autorité morale qui est le chef de l'État, sans l'accord duquel rien n'aurait été obtenu. Donc il faut partir du principe que dans la mesure où le chef de l'État gardait la main tendue, c'est lui qui revenait à charge vis-à-vis de la CENCO, qui encourageait la CENCO. Souvenez-vous que plus d'une fois, la CENCO est allée, au moment où il y avait des crispations, le voir pour obtenir certaines avancées. Que tel ou tel membre de la majorité ait des états d'âme, là aussi, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut faire confiance au chef de l'État, sans lequel rien ne peut être fait par la majorité, pour que les paroles soient tenues.
Un professeur, reste que l'accord soit effectivement appliqué.
L'accouchement a été un peu rude. Le plus dur, c'est l'application de ce qui a été décidé. Et c'est peut-être au pied du mur que l'on voit le maçon. Attendons voir la classe politique congolaise qui était décriée et qui n'a jamais donné la preuve d'elle-même de sa capacité à se transcender au nom de l'intérêt général et du bien public. Nous y voici. Alors, attendons voir maintenant cette capacité qui a été obtenue dans la négociation ardue, sa traduction dans les actes pour que dans un délai raisonnable d'un an, que les élections puissent se tenir et qu'elles soient libres, démocratiques, transparentes et apaisées, pour reprendre le terme du chef de l'État.
L'accord prévoit la mise en place d'un conseil national et suivi du compromis et du processus électoral. À votre avis, quelle devait être sa mission et ses rapports avec d'autres institutions du pays, notamment le gouvernement?
Le conseil national de suivi, c'est celui qu'on a connu au sortir l'accord global inclusif. À cette époque, la transition n'était pas surveillée par les Congolais, parce que les Congolais étaient méfiants. L'opposition, comme c'est du pouvoir, il s'épiait et personne ne voulait perdre la face. C'est pour ça que le CIAT a été constitué avec les membres permanents du Conseil de sécurité, leurs ambassadeurs à tous les mois, auxquels étaient joints d'autres pays comme le Gabon, l'Angola, etc., pour compléter le scénario. Alors, dans cette perspective, le fait que ce Conseil national qui doit assurer le contrôle de la transition soit confié aux Congolais, notamment et le plus respecté d'entre eux en tant qu'opposant, c'est déjà une garantie que les choses doivent aller dans le bon sens naturellement. Alors chacun a sa responsabilité. Il ne faut pas confondre le contrôle par le Conseil et le gouvernement. Nous n'avons pas changé de République, on n'a pas changé de Constitution. Le Conseil n'a pas le droit de se substituer au gouvernement de la République qui est, comme on le sait, responsable devant l'Assemblée et le chef de l'État durant toute la période de la transition. Donc chaque institution doit jouer sa partition.
La direction de ce conseil a été confiée à Étienne Tshisekedi et c'est une garantie pour la réussite de son application.
Mais le fait que ce conseil, moi, sa direction, ait été confiée au président de l'UDPS, c'est la première garantie que l'on doit avoir. Alors, puisque l'opposant numéro 1, qui était le numéro 2 aux élections, aux dernières élections, c'est-à-dire les élections de 2011, alors il est tout à fait équitable que ce soit lui qui assume cette charge. Évidemment, il joue le rôle de coordination il a une responsabilité de veiller à ce qui a été convenu, mais il n'est pas le seul à veiller. Il y a tout le monde, à commencer par le président de la République, à commencer par le gouvernement, à commencer par les autres membres de l'opposition et de la majorité, et le peuple tout entier qui veille, il a 5 ans qui veille.
Dans l'entretemps, la primature a été aussi donnée au rassemblement. Est-ce également une garantie?
Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le pouvoir doit être normalement partagé entre le rassemblement, qui est la véritable opposition, d'un côté, et le président de la République, qui doit demeurer aux commandes de la République jusqu'à l'élection de son successeur. Ce n'est que justice, parce que l'esprit même est la lettre de la Constitution. Il est vrai que les élections n'ont pas été organisées. Il fallait mettre face à face ceux qui s'opposent au pouvoir, donc à la continuité du chef de l'État pour un mandat d'un an. Donc le fait que le rassemblement récupère le gouvernement de la République, c'est une des garanties que la majorité ne joue pas un vilain jeu, qu'il n'y a pas des cartes, des agendas cachés. Tout le monde doit jouer la partition visiblement dans la réalité du pouvoir et de l'État. Et maintenant que l'opposition est en face de la majorité pour la gestion commune pendant un an, alors tous ceux qui voulaient le bonheur du Congo n'ont qu'à mettre la main à la pâte.
Et donc, avec cet accord, vous estimez que la crise politique congolaise est réglée?
Pour l'instant, en touchant du bois, le souhait de tous les Congolais est qu'il faut en finir avec cette querelle. Alors, il faut que chacun joue sa partition. La CENCO doit rester toujours à la manœuvre. La communauté internationale ne doit pas léser sur les moyens. Le président de la République, qui est le garant de la nation constitutionnellement, veille au grain. Le gouvernement qui va sortir va veiller au grain pour que les uns et les autres, chacun a son rôle, y compris ce Conseil national de supervision de la transition. Je pense que s'il y a de la bonne foi et comme le peuple est vigilant, parce que quiconque va torpiller cette transition ne pourra pas compter sur l'opinion de Congolais qui veulent qu'on en finisse et qu'on aille aux élections et que seules les élections puissent dire à qui on donne les clés de ce pays pour les 5 ans qui viennent.
Professeur Moïla Tiembe, je vous dis merci.
Merci à vous.